France Musique. C'est l'été sur France Musique. Femme pionnière, Elsa Fattorino.
A woman must have money and a room of her own.
Et c'est cette nature qui m'a beaucoup porté des choses.
J'aime dire que je suis compositeur au sens de métier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans le romantisme. Le 19e siècle est une période où les femmes font de très belles carrières en tant que solistes. Des pianistes comme Marie-Jaël ou Teresa Carreña s'imposent sur les scènes du monde entier. Si le statut d'interprète leur est accordé, celui de compositrice se conquiert de haute lutte. Mais certaines d'entre elles parviennent à imposer timidement ou dans l'éclat de leur talent, leurs œuvres à une société encore fermée aux femmes qui sont piégées dans un rôle de muse ou d'éternel féminin. À commencer par Louise Farinck, pionnière de la musique symphonique au mi-temps de ce long 19e siècle.
Thank you.
L'Adagio cantabile de la 3e symphonie de Louis Farinck par l'Orchestre Philharmonique de Radio France que dirigeait Mikko Franck. Mais qui était donc Louis Farinck? Elle a vécu entre 1804 et 1875 à Paris, à la même époque qu'une autre compositrice un peu plus célèbre, Fanny Mendelssohn, dont je vous parlerai dans une prochaine émission. Elle vit au Louvre avec ses parents, dont un père sculpteur, un privilège réservé à certains artistes. Ils seront transférés sous Napoléon dans une annexe de la Sorbonne. Cette colonie d'artistes organise des concerts. Cela tombe bien, la petite Louise, qui est une enfant extrêmement douée, va pouvoir exprimer ses talents pour le piano, fortement encouragée par ses parents. À l'âge de 15 ans, elle étudie avec Anton Reicha l'harmonie et la théorie. Dans la colonie, elle fait la rencontre d'Aristide Farinck, qui participait au concert en tant que flûtiste et se faisait accompagner au piano par Louise. Il épouse la jeune musicienne de 17 ans. Lui en a 27. Ils formeront toute leur vie un duo complice et solidaire, puisque Aristide Farinck ne cessera d'éditer la musique de sa femme pour la faire connaître. De cette union naîtra une fille, Victorine, elle aussi très douée pour le piano. En 1834, Louise compose ses premières œuvres pour orchestre et dans la décennie qui suit, elle se consacre à la musique de chambre. Son sonate est créée en 1850, notamment par Joseph Joachim, l'un des plus grands violonistes de son temps. Son style sera profondément marqué par l'esthétique beethovenienne. C'est une musique pleine de verve, vive et délicate, qui ne s'inscrit pas dans la tendance du grand pathos romantique. Clarté, subtilité, dynamisme sont les ingrédients de sa musique, associés à une vraie richesse mélodique et harmonique. Schumann a d'ailleurs une très jolie formule pour la décrire. Il parle d'un tout léger parfum romantique qui plane dans sa musique. Nous sommes toujours avec la compositrice française Louise Farinck, dont nous venons d'entendre le scherzo de son Nonette. Il est intéressant de noter que malgré sa personnalité discrète, elle obtient une classe de piano au Conservatoire de Paris. Et elle se bat pour avoir une augmentation qu'elle finira par obtenir. Cependant, à cette époque, il n'est pas possible d'avoir le prix de Rome ni d'enseigner la composition au conservatoire, ce qui limite considérablement la portée et le rayonnement des compositrices. Un événement tragique viendra hélas assécher sa plume, le décès de sa fille Victorine, emportée par la tuberculose à l'âge de 32 ans. Louise Farinck qui consacre alors la fin de sa vie à des écrits musicologiques sur l'interprétation de la musique ancienne. Et elle sera véritablement pionnière dans ce domaine. Elle ne connaît certes ni la carrière de Marie Jaël, ni le succès flamboyant d'Augusta Holmès, mais elle n'est pas moins essentielle et ouvre en cette première moitié de siècle la voie à d'autres femmes. Contrairement à Louise Farinck, sa contemporaine polonaise Tekla Badarzewska a connu un succès mondial avec une pièce pour piano. De sa vie, on sait peu de choses, si ce n'est qu'elle a peu vécu. Elle est née en 1834 et morte en 1861 à l'âge de 27 ans, et elle composait de la musique de salon. L'une de ses pièces, La prière d'une vierge, composée à l'âge de 17 ans, est devenue célébrissime. Ce sera un succès inédit puisque les autres partitions ne connaîtront pas le même engouement. Les critiques de son époque jugent sa prière d'une vierge médiocre, sentimentale et de mauvais goût. D'autres commentateurs vantent au contraire son charme mélodique. Je vous en laisse donc seul juge. La prière d'une vierge de Tekla Badarzewska sous les doigts du pianiste Lang Lang. Une œuvre qui a rencontré en son temps et au-delà un immense succès. La mélodie a d'ailleurs donné lieu à une reprise de Kurt Weill dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fotorino.
J'ai envie à présent de vous parler d'un cas unique et d'une personnalité rare dans la fin du 19e siècle. Il s'agit de Marie Jaël qui a vécu entre 1846 et 1925. Contrairement à beaucoup d'autres musiciennes comme Louise Farinck qui est née dans un milieu artistique, Marie Jaël n'avait pas accès aux salons et à la vie musicale parisienne. C'est une artiste qui a forgé sa carrière à la force de son talent et de sa volonté. Marie Jaël vient d'un milieu petit bourgeois provincial. Son père a d'ailleurs fait acheminer son premier piano droit sur une petite charrette. On est donc bien loin de la colonie d'artistes de la Sorbonne. Il faudra donc à notre compositrice d'autant plus de résolution, de ténacité pour se faire une place dans un milieu parisien élitiste et machiste. Cette volonté, cette détermination est à l'œuvre dans sa musique. Marie Jaël est née en Alsace en 1846, c'est-à-dire 14 ans avant le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand. La jeune fille parle allemand, mais elle fait le choix d'être française. Elle s'installe pour vivre à Paris. On peut imaginer qu'elle a vécu un certain nombre de tiraillements intérieurs et de bouleversements personnels. Entre la campagne et la capitale, la France et l'Allemagne, elle a donc vécu, en quelque sorte, un double choc culturel. S'il faut la résumer, elle était pédagogue, pianiste et compositrice. Souvent, elle a été réduite à son seul talent de pédagogue. Il faut dire qu'elle a laissé derrière elle une méthode de piano profondément novatrice, avec une réflexion extrêmement poussée sur la psychologie et la physiologie. Mais elle est aussi une pianiste de renommée internationale qui donnait des tournées dans toute l'Europe. Premier prix de conservatoire de Paris, elle se forme auprès de César Franck et Camille Saint-Saëns. Elle est proche de Franz Liszt, dont elle achève la troisième Méphistovals. Liszt aurait d'ailleurs déclaré à son sujet « Un nom d'homme et vos partitions seraient sur tous les pupitres ». C'est elle qui fait entendre l'intégrale du compositeur hongrois au public parisien en 1871, et aussi l'intégrale des sonates de Beethoven entre 1892 et 1894. On sait bien que pourtant la musique allemande n'est pas en odeur de sainteté en France à cette période de l'histoire. D'ailleurs, dans sa façon d'orchestrer sa musique, Marie Jaël n'est pas dans une esthétique de clarté ou de transparence à la française, mais se rapproche plus d'une densité germanique, comme on a pu l'entendre dans son deuxième concerto pour piano. Dans son concerto pour violoncelle, l'orchestre est un véritable écrin pour laisser s'épanouir le chant du soliste. Il le porte au firmament de l'expressivité. L'œuvre a été créée en 1892 à Lérard par Charles Lamoureux et Jules Delsart avant d'être repris au Gewandhaus de Leipzig. On en écoute le deuxième mouvement par Xavier Philips, le Bruxelles Philharmonique et Hervé Niquet.
Thank you.
Ce concerto pour violoncelle de Marie-Jaël est l'occasion de parler d'un autre aspect de sa personnalité. Elle a beaucoup détruit et réécrit sa musique. Ses concertos, par exemple, ne sont pas à l'état définitif. Il existe notamment des dizaines d'esquisses du concerto pour violoncelle, ce qui donne le sentiment qu'elle doute de son talent ou qu'elle ne croit pas en elle. Elle finira d'ailleurs par abandonner la composition au profit de la pédagogie. Mais avant de quitter cette compositrice, je voudrais vous faire entendre une autre de ses œuvres les plus accomplies. Il s'agit de mélodies qu'elle va orchestrer dans le cycle « La légende des ours ». Ce cycle est supposé être humoristique, mais quand on regarde de plus près le sujet, on se demande s'il ne dénonce pas de façon sous-jacente les violences conjugales. L'histoire est la suivante. Après une union malheureuse, un ours va assassiner une oursonne et mourir sur sa tombe. On peut rapprocher ce cycle d'un autre qu'elle composera, Les Orientales, dont la dernière pièce raconte l'histoire d'une jeune fille voilée, assassinée par ses frères. Un sujet brûlant d'actualité.
Toujours il est temps.
Chantal Santon-Jeffrey, le Bruxelles Philharmonique et Hervé Niquet dans cet extrait de La Légende des ours de Marie Jaël. Nous quittons l'Europe pour l'Amérique latine, plus exactement pour Caracas, au Venezuela. C'est l'histoire d'une enfant prodige, Teresa Carreño, qui accomplit une exceptionnelle carrière de pianiste soliste à travers le monde. C'est l'histoire d'une femme, mère de 5 enfants, qui pouvait donner plus de 130 concerts dans la même année. C'est l'histoire d'une pianiste qui était surnommée la Valkyrie du piano pour sa puissance, les dimensions extraordinaires de son jeu, sa présence scénique exceptionnelle. C'est l'histoire d'une compositrice qui a écrit l'essentiel de sa musique avant ses 22 ans. À quelques exceptions près, cette Kleiner Walzer que nous entendons, écrite pour sa fille Teresita, accusée en 1914 d'être une espionne allemande, mais c'est une autre histoire. Sa musique est imprégnée du style traditionnel vénézuélien, et vous l'entendrez, Chopin non plus n'est jamais loin. Née à Caracas en 1853, la Carreño est celle qui jouera devant Lincoln à la Maison Blanche et devant la cour d'Espagne, celle qui publiera ses premières compositions pour piano à 9 ans, qui quittera très tôt Caracas pour New York, qui rencontrera Rossini à Paris, qui brûlera sa vie sur les routes, qui défendra comme personne le concerto pour piano de Grieg, celle qui aura divorcé 3 fois et se sera mariée 4, celle qui était aussi soprano, celle qui composa des hymnes patriotiques vénézuéliens, celle qu'on a oubliée sur l'une des rives de l'Atlantique, mais pas dans son pays natal, où le théâtre de Caracas porte son nom.
Thank you.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fattorino.
Je vais vous parler à présent d'une autre Valkyrie. Imaginez un peu, 22 000 personnes réunies sur les Champs-Élysées. Et sur une scène de 2000 mètres carrés, 300 musiciens, 900 chanteurs et chanteuses. Nous sommes en 1889 au Palais de l'Industrie et le public applaudit, que dis-je, acclame, l'œuvre d'une femme, Augusta Holmès. L'ode triomphale en l'honneur du centenaire de 1789 est un vrai succès public. Il faut dire que l'événement, le centenaire de la Révolution, est à la mesure des ambitions de notre héroïne du jour. Sa musique est grandiloquente, hollywoodienne, luxuriante, avec une instrumentation très cuivrée. Parfois, elle n'hésite pas à faire dans la cavalerie lourde. C'est une musique aux accents wagnériens. Elle est à l'image de cette femme qui a transgressé toutes les lois de la société pour exercer son métier et s'imposer comme une femme libre. Un vrai défi dans la deuxième moitié du 19e siècle. J'ai dû me battre en tant que compositeur et en tant que femme, disait Augusta Holmès. Ne croyez pas, quoi qu'on en dise, que la carrière artistique soit plus ouverte à mon sexe. C'est une grave erreur. Ne comptez pas sur elle pour faire de la broderie dans les salons. Non, elle fascine ses contemporains par son talent, sa volonté farouche, son tempérament de braise et sa beauté. Augusta Holmès est un véritable personnage de roman. Jeune fille de bonne famille d'origine anglo-irlandaise, elle grandit à Versailles où elle apprend le piano, le chant et plus rare l'harmonie et le contrepoint. Filleule d'Alfred de Vigny, sa voix de contralto ensorcelle le salon versaillais de Guillot de Saint-Brie. Elle deviendra aussi élève de César Franck et comme son père, une fervente admiratrice de Wagner. Ensemble, ils iront à la création de L'Or du Rhin avant de séjourner chez le compositeur à Tribschen où elle se rapprochera du poète Catulle Mendès, lui aussi du voyage avec sa femme Judith Gauthier, la fille de Théophile. Je vous passe les détails vaudevilliens de ce voyage. Augusta entretiendra avec le poète une liaison pendant 17 ans dont seront issus 5 enfants. Indépendante farouche, elle ne s'occupera pas d'eux et les confiera à une nourrice. Elle ne paraîtra non plus jamais avec eux en public. Ces trois filles seront immortalisées par Renoir dans l'une de ses plus célèbres toiles, les filles de Catulle Mendès. On voit qu'elles ont la chevelure dorée de leur mère. La nuit et l'amour, interlude de l'ode symphonique Ludus pro Patria d'Augusta Holmès par Pierre Bleuze et l'Orchestre National de Lyon. Une partition créée le 4 mars 1888 à Paris. En 1895, l'opéra d'Augusta Holmès, La Montagne Noire, est donné à l'Opéra de Paris. C'est la première fois que l'institution ouvre ses portes à une femme depuis Louise Bertin en 1836, dont j'aurai l'occasion de vous parler très prochainement. Mais La Montagne Noire se solde par un désastre critique sur fond de machisme et d'anti-wagnérisme. Cela n'empêchera pas Augusta Holmès de rester populaire auprès du public. D'ailleurs, vous connaissez sûrement un de ses célèbres chants de Noël, « Trois anges sont venus ce soir ». Et nous quittons la compositrice Augusta Holmès avec cette citation de Debussy. Elle fut très belle et avait probablement tout ce qu'il faut pour être heureuse. Elle préféra faire de la musique malgré ce que cela représente de surdéboire et d'indicible tristesse. C'est la fin de notre émission. Merci de m'avoir suivi et un grand merci également à toute l'équipe, Dorothée Goll à la production, Félix Levacher à la réalisation et Olivier Dupré à la technique. Je vous invite à retrouver tout le détail des œuvres et des interprètes sur le site francemusique.fr. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.